Ben, tout d'un coup, ce conte-là raconte d'où ça vient, ces vers de mer-là. Donc, je pense que ça plaît beaucoup au monde. Et pourtant, c'est un de mes contes que j'aime, moi, personnellement, le moins. Je sais jamais trop à quoi le monde s'attend quand ils s'en vont voir un spectacle de contes. Ni à quoi ils s'attendent quand ils téléchargent un balado supposé parler de contes. Mais ce que je sais, c'est que je m'appelle Patrick Dubois, je suis conteur et je m'en vais vous parler en long et en large de ce qu'a été pour moi la grande aventure d'être conteur d'histoire. Et vous écoutez, il était une fois dans l'Est. Un des contes qu'il y a dans mon répertoire depuis 2013, c'est l'histoire du navire de verre. Le titre officiel, mais c'est le même que je l'appelle. C'est une espèce d'histoire... Je ne vous raconterai pas, là. Le deal était clair au début, me semble. c'est une de mes plus vieilles histoires, en fait. Ça doit être ma 3e ou ma 4e histoire. Alors, depuis 2013, donc je l'ai sortie souvent. Et celle-là, en fait, je l'ai particulièrement contée souvent parce que, bon, depuis un bon moment, pour choisir quelle histoire je raconte le soir à mon spectacle, on pige dans un sac. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce sac-là? Il y a des roches. Il y a des roches sur lesquelles il y a une espèce de dessin et chaque dessin ramène à une histoire. Donc, ça me permet d'y aller aléatoirement et d'invoquer l'histoire. Sauf que pour ce conte-ci, je n'ai pas mis une roche, mais j'ai mis un gros verre de mer. C'est un bout de verre, je ne sais pas moi, c'est une Budweiser qui a été polie par la mer, tu sais. Et elle est émoussée. Et de toute manière, je laisse les gens piger. Donc, ça, ce n'est pas mon problème rendu là, si elle n'était pas émoussée. Mais... il se trouve que le verre de mer est plus gros que le reste de mes roches. Donc, je sais pas, il est 10% plus gros. Et puis, quand je fais piger les gens pour montrer que c'est pas moi qui choisis, tu sais, souvent, je m'adresse à la première rangée en disant à quelqu'un, veux-tu piger une histoire, tu sais? Comme bien souvent, le monde met leurs enfants en avant. Et puis, les adultes peuvent enfin aller en arrière, boire de la bière. Et puis, pour 5$, ils ont une gardienne pour la soirée, quoi. Les vacances. Alors, je me ramasse à faire piger des enfants souvent. Ils sont bien contents de piger. Sauf que demande à un enfant de piger quelque chose dans un sac et il y a des bonnes chances qu'il sorte la seule affaire qui est différente des autres. Au toucher, ils font comme « Ah, il y en a une qui est mauditement grosse ici. Elle doit être meilleure, cette histoire-là. » Paf! Et voilà le navire de verre qui sort encore une fois cette semaine. T'sais. Donc, le navire de verre, à cause de son format de roche, est sorti vraiment plus souvent. Mais je pense que c'est une histoire que le monde aime bien parce que, entre autres, c'est un conte qui, un peu comme une mythologie, comme un mythe, va raconter l'origine des vers de mer, de ces petits bouts de vitres qu'on trouve le long des plages. Ici, c'est une pratique très courante. Tu le sais, Marianne, on va sur la plage et on cherche pour quelque chose qui brille sur la plage. Et ça nous fait ramasser ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire notre marche. C'est des pierres semi-précieuses, c'est ça. Alors, on ramasse des vers de mer. Et bien, tout d'un coup, ce conte-là raconte d'où ça vient, ces vers de mer-là. Donc, je pense que ça plaît beaucoup au monde. Et pourtant, c'est un de mes contes que j'aime, moi, personnellement, le moins. Je sais pas pourquoi. Chaque fois que je le raconte, je me dis, il me semble que c'est faible, ça va... C'est un peu simple comme construction, je sais pas. Je compte le truc puis je me dis, ouais, c'est pas convaincant ce bout-là, mais le monde sont convaincus puis ils me disent, ah, vraiment, ça, c'est ma favorite. T'sais. Ce qui me fait baisser l'estime que j'ai pour toutes mes autres histoires en me disant, si ça, c'est ta favorite, c'est peut-être juste que les autres sont pas yables finalement, t'sais, puis que j'ai une mauvaise lecture de mon répertoire. Mais c'est ça. Donc, je pense que ce que le monde aime dans cette histoire-là, c'est pas nécessairement l'histoire elle-même, mais c'est que on est souvent au présent dans ce conte-là et je suis peu dans la narration, mais beaucoup plus dans le jeu. Et c'est des images qui sont très cartoon, tu sais, un personnage qui en étrangle un autre et puis les yeux qui sortent de la tête puis la langue qui sort de la gueule, tu sais, mais ben, en tout cas, moi, quand je le dis, je le vois très à manière Simpson. J'ai l'impression de voir Homer en train d'étrangler Bart, puis c'est probablement cette image-là que j'appelle, moi, quand je fais quand on m'a raconté cette histoire-là, il y a personne qui étranglait personne, mais j'avais le goût que quelqu'un étrangle quelqu'un, tu sais. Mais étrangle pas à mort, mais comme étrangle pour taquiner, tu sais, une petite étranglade frère et sœur. C'est un truc sympathique, familial. C'est de la belle sororité, fraternité. Alors, il y a des trucs hyper exagérés là-dedans, puis je pense que ça fait plaisir au monde d'être dans une espèce d'univers complètement déjanté, et ça lui plaît de voir un peu peut-être cette liberté-là, où c'est clair que c'est une liberté que le conteur s'est offerte, de faire diverger un conte traditionnel, puis de l'amener dans la caricature à ce point-là. Et puis, une autre chose dans ce conte, c'est que, je la compte depuis longtemps, puis... Je pense que j'étais un peu pédagogue au début quand je comptais. Il y avait beaucoup de faits historiques. J'avais fait pas mal de recherches. J'avais envie qu'il y ait un contenu solide qui soit ancré dans une certaine réalité, ces contes-là. Donc, j'avais étudié la Gaspésie des années 1800, l'arrivée des premiers colons ici et ça, les grands faits historiques. Et puis, les petits faits historiques aussi, comment on vivait à l'époque. Et je pense que je me suis un peu fait prendre au jeu. Et pendant que je comptais, ben, je pluguais ces petits faits-là et ça intéressait le monde. Puis moi, ça m'intéressait aussi. Puis ça faisait en sorte que je n'avais pas besoin d'avoir des bonnes histoires vu que j'avais un cours d'histoire qui devenait intéressant. T'sais. Et mais étant très pédagogue, eh ben, j'avais souvent tendance, c'est très québécois, j'avais souvent tendance à dire « hein » après chaque chose. Hein, vous savez comment on faisait dans ce temps-là, hein? Et puis, je disais des « hein » partout jusqu'à ce qu'un de mes chums me le fasse remarquer. Puis, ça s'est mis à vraiment me gosser. Puis, je me suis mis à avoir peur de dire « hein » à la fin de chacune de mes phrases. Je ne sais pas si ça a diminué ou si je me suis mis à remplacer ça par un autre tic verbal tellement j'étais focusé sur celle-là. Mais toujours est-il que ça faisait en sorte que le monde intervenait tout le temps dans mes comptes parce que, sans le vouloir, ben, je les invitais à intervenir, à dire les réponses. Et victime de ce phénomène-là, il y a un moment dans l'histoire où est-ce que dans le navire de verre, les personnages sont au large et puis ils ont trouvé un trésor au fond de la mer et ils veulent retenir l'endroit exact de ce trésor-là, mais ils sont au large. Alors, vous savez comment ils ont fait pour pas perdre l'endroit, hein? Et puis, il y en a un dans la foule qui dit, ben, ils ont fait un X dans le fond du bateau. Et on part tous à rire. Et sincèrement, l'écriture de cette personne-là, parce que c'en est à ce moment-là, tu viens d'écrire sous l'histoire, elle était tout à fait juste, puis c'était tout à fait cohérent avec ce qui n'avait pas d'allure dans le reste de mon histoire. Je veux dire, le personnage qui en entraîne, on reste dans le cartoon, et puis en ayant un X sur le fond du bateau, on s'entend que partout devient la bonne destination. Tu sais, c'est exactement le genre d'humour absurde qui m'a plu. Et ben son X à cette personne-là est resté depuis ce temps-là. Moi. Maintenant, on ne prend plus. Avant, bon, il servait des amers. C'était deux repères qu'on prenait au large, soit à terre. On regardait un peu, on alignait le clocher de l'église avec le bout de cette grange-là et ça te disait une grande ligne dans laquelle, ça te disait l'axe dans lequel tu étais et puis tu en trouves un amer. C'est de même, ça fonctionne. Tu trouvais deux amers, ça te faisait un X. Et tu savais que quand tu allais avoir enligné le clocher de l'église avec cette grange-là, ben nécessairement, tu étais dans cette trajectoire-là. Puis si tu en avais une autre qui croisait ça, ben paf, tu étais sur ton X. T'sais. Mais maintenant, on n'a plus cette pertinence-là. Maintenant, mes personnages, ben ils font un X sur le fond du bateau. Quoique, une fois sur deux, j'oublie de dire qu'ils font un X sur le fond du bateau, ce qui fait qu'il n'y a plus de sens à ce bout-là qui était parfaitement essentiel. Mais bon, coudonc, le sens, ça reste secondaire quand je compte. Mais fait que c'est ça, finalement. Puis ça, c'est quelque chose qui me plaît. J'ai pas l'impression de voler une bonne idée. Non, j'ai plutôt l'impression que collectivement, on a bonifié cette histoire-là et puis on reste dans une forme de tradition orale où est-ce que monsieur, madame, tout le monde ont mis la main à la pâte. Et ça me plaît. Et ce conte-là du navire de verre, c'est mon premier conte, si je me trompe pas, où est-ce qu'il y a un quêteux qui apparaît. Ces espèces de vagabonds, ces voyageurs-là. Et pour moi, ben, c'est sûr qu'il me plaisait, ces personnages-là, parce qu'ils représentent le métier que je pratique, finalement, celui d'aller cogner chez des gens pour porter des histoires. Et puis, ben, il y en a plein des quêteux d'un conte parce que les contes ont souvent été portés par des quêteux. Et puis, ils se sont eux-mêmes mis en héros dans les histoires. Il y a entre autres plein de vieux contes traditionnels où est-ce que le personnage principal, c'est un tailleur, quelqu'un qui fabrique des vêtements. Et on m'apprenait récemment que les tailleurs se promenaient à domicile. Parce qu'il fallait qu'ils voyagent de village en village, parce que du monde qui avait moyen de se payer du linge, il n'avait pas des tonnes. Fait qu'il fallait que tu sois nomade pour peut-être trouver les riches de chaque village. Alors, les tailleurs étant nomades, eh bien, ils se sont mis à dormir chez le monde. Donc, à conter des histoires, parce qu'on n'avait pas de télé dans le temps. Alors, comme ils participaient souvent aux veillées de compte, ben, ils se sont mis probablement à en compter souvent. Et puis, ils ont sûrement changé plein de pêcheurs ou de boulangers dans des histoires par des tailleurs. Le personnage incroyable de cette histoire-là devient un tailleur. Et puis, ils se sont greffés eux-mêmes. Eh bien, moi, dans ce conte-là, le navire de verre, ben, j'ai évidemment mis un quêteux. Et moi, les quêteux, je les aime bien parce que c'est un personnage hyper pratique. C'est un espèce de couteau de poche qui peut avoir tous les talents du monde. De un, il est mystérieux, il arrive de l'extérieur et ils viennent souvent prendre le rôle de guide dans une histoire pour moi. Tu sais, si j'avais à te raconter le Seigneur des Anneaux, ben, tu peux être certain que Gandalf deviendrait un quêteux parce qu'il sait des choses que personne ne sait, parce qu'il vient d'ailleurs, quoi. Si je te racontais Star Wars, ben Obi-Wan Kenobi, ou ben tiens, Yoda. Yoda deviendrait un petit quêteux qui parle à l'envers parce qu'il marche à l'envers et ça me servirait comme ça. Donc, de laisser des quêteux, moi, dans les histoires, c'est quelque chose qui me plaît aussi, non seulement parce que ça me représente, mais je pense que ça nous représente. Ça nous représente les Québécois comme plein d'autres nations qui ont eu ces porteurs de traditions-là, mais qui aussi, ben, le quêteux laisse une trace de son négatif. En fait, le quêteux laisse une trace de l'hospitalité des gens qui occupaient un territoire. S'il y avait des quêteux ici, c'est qu'on acceptait de les loger. C'est qu'on acceptait d'ouvrir la porte à ces quêteux-là. Un peu de la même manière que... il y a des grands reliefs sur la planète Mars qui prouvent qu'il y a déjà eu de l'eau, eh bien, le fait qu'on se souvienne des quêteux nous permet de nous souvenir que dans le temps, eh bien, les gens ici savaient recevoir. Alors, je pense que par cette apparition-là d'un premier personnage de quêteux, pour moi, bien, il y avait quelque chose qui apparaissait dans ma manière de compter, c'est-à-dire de plugger des quêteux partout où je n'avais besoin. Ça s'est mis à faire partie de, je sais pas moi, de ma signature. Bien, on est plein de conteurs-conteuses à mettre des quêteux dans nos histoires parce qu'il y en avait de toute manière. Mais clairement, pour moi, c'est à partir de ce compte-là que ça s'est établi. Vous écoutiez « Il était une fois dans l'Est », une production de La Petite Grève. Le titre original est de Alexandre Gauthier, la musique originale de Guillaume Arsenault. À la co-animation, Marianne Boudreau, au montage, Thomas Wadam Gagnon, et à tout le reste, ben, moi-même, Patrick Dubois. Cette production a été financée par La Petite Grève, ainsi que la MRC Avignon et Boralex.